Chapitre 6. La théorie d'Ovid. 7h45, quai de Bois-Guilbert, Rouen. La sonnerie cessa. La stupeur avait annihilé leurs réflexes. Le commissaire regarda ses adjoints et les policiers présents, incrédules. « Nom de Dieu, vous n'aviez pas vérifié que le Maccabée avait un portable ?»«
Si, » plaida l'inspecteur Stépanou. « Mais on l'a laissé dans sa poche pour l'examiner plus tard. » Tu voulais faire quoi? On est là depuis à peine une heure.
Une nouvelle sonnerie, celle caractéristique de l'arrivée d'un SMS, coupa leur conversation. On avait laissé un message au cadavre.
Eh bien, vas-y, regarde maintenant,
grogna le commissaire Paturel. Il sentait qu'il avait besoin de laisser exploser sa colère et qu'il n'allait pas être facile à vivre dans les heures qui allaient suivre. Plusieurs policiers s'écartèrent. L'inspecteur Ovid Stépanou se pencha et attrapa avec délicatesse le téléphone portable. Il joua avec les touches. Au bout de quelques instants, il avança le cadran du téléphone vers le commissaire. Gustave Paturel fronça les yeux et lut « Se que me espera ».
« De l'espagnol, » fit le commissaire. « Je suppose que cela veut dire quelque chose comme « J'espère que tu es là ».
Personne n'osa le contredire. Un court et pesant silence s'installa. Ovid Stépanou le rompit le premier, d'une voix morne.
« Qui peut bien envoyer des SMS à un mort ?»
L'inspectrice Colette Cadinot prit le relais avec assurance. « Imaginons qu'il s'agisse de la fameuse fille blonde. Cela signifierait qu'elle n'est pas au courant de sa mort. Elle passe une partie de la nuit avec lui, elle le quitte et elle lui envoie un SMS dans sa langue natale pour prendre des nouvelles au petit matin. » Paturel afficha enfin un sourire.
« Si c'est la blonde, » fit le commissaire, « c'est au moins la première bonne nouvelle de la matinée. Cela signifierait que l'on possède ses coordonnées. »«
Certes, » précisa Ovid, « mais sans vouloir jouer les rabat-joie, cela voudrait aussi dire qu'elle n'a pas été témoin du crime, puisqu'elle croit Mungaraï encore vivant. »
Cela désespéra Gustave Paturel d'admettre que ce Cassandre de Stépanou avait raison. Une fois de plus. Il regarda les badauds qui, centimètre par centimètre, grignotaient l'espace vital de leur enquête. Tout ceci tournait au délire. Il fallait prendre des décisions.
« Bon, » s'énerva le commissaire. « Colette, tu me fais traduire cela avec précision. Tu me recherches celle ou celui qui a envoyé ce SMS et tu m'examines en détail tous les autres numéros et messages de ce portable. »
Il confia le téléphone à l'inspectrice. Il avait maintenant hâte de quitter les quais. Il savait qu'une tonne de formalités l'attendait. Sans parler des rendez-vous, la presse, le préfet, l'organisation de l'armada. Il avait besoin d'un peu de calme pour faire le point. Impossible de réfléchir ici, au beau milieu de cette foule. Mais comment faire autrement? Il allait lancer de nouveaux ordres lorsque Colette Cadinot lui attrapa le bras.
« Commissaire, écoutez cela !»
Elle lui tendit le téléphone portable du jeune Mexicain. Gustave Paturel sentit qu'il allait encore franchir une nouvelle étape dans l'irrationnel.
« Qu'est-ce que c'est ?» demanda le commissaire inquiet.
« Le répondeur de Mungaraï, le message sur lequel on tombe lorsqu'il ne décroche pas. »
La sueur mouilla à nouveau le bas du dos du commissaire. Il s'attendait au pire. Il prit dans sa large main le minuscule téléphone et le colla à son oreille. Le jeune Mexicain s'exprimait dans un français hésitant avec un fort accent. On comprenait néanmoins parfaitement ce qu'il disait. Le commissaire écouta deux fois pour être certain d'avoir bien entendu. Aquilero prononçait cette courte phrase, invraisemblable dans la bouche d'un jeune matelot en pleine vitalité.
« Mourir pour moi n'aura rien de troublant, et ce sera reprendre une habitude ancienne. »
Le commissaire passa la main sur son front trempé et tendit le téléphone portable à Stépanou. Qu'est-ce que ce message irrationnel pouvait bien signifier? Gustave Paturel fit un effort pour se ressaisir.
« Ok, » dit le commissaire. « Rendez-vous dans une heure au commissariat, dans mon bureau, tous les deux. Convoquez-moi aussi le médecin légiste, s'il a fini. D'ici là, je règle les urgences et je calme le jeu avec les autorités. Ensuite, on réfléchit et on met en place un plan de bataille. »
Il regarda sa montre et se rappela qu'il devait également appeler chez lui la baby-sitter qui gardait ses enfants. Il avait promis qu'il serait rentré dans une heure. Quel bordel! L'inspectrice Cadinot dut percevoir l'état psychique du commissaire. 30 ans de collaboration lui avaient appris à savoir calmer le jeu quand il le fallait.
Si vous voulez mon avis, commissaire, il n'y a pas vraiment de raison de paniquer.
Paturel ne protesta pas et l'écouta intéressé.
Si je récapitule,
continua Colette Cadino, nous avons affaire à un marin mexicain à la personnalité complexe, un jeune garçon à l'esprit un peu torturé. Les marins du côté moque me l'ont confirmé. Il y a quelques jours, par exemple, il a plongé dans la Seine devant une foule en délire. Il laisse des messages morbides sur son répondeur, il se tatoue le corps. Ses penchants mortifères ont une tendance masochiste, genre autodestruction. Après avoir beaucoup bu, hier, il brûle le tatouage qui le représente. Tout ceci va dans le même sens, celui d'une personnalité tournée vers la mort. Ce genre de personnalité plaît beaucoup à certaines filles, surtout que le garçon est beau gosse. Il a été trop loin hier soir, sans doute après avoir quitté cette fille qui le croit encore vivant. Il a fait une mauvaise rencontre, ce qui n'a rien d'étonnant étant donné le milieu qu'il est amené à fréquenter, peut-être même une simple affaire de drogue. On n'en sait encore rien, mais il n'est pas impossible qu'on soit simplement face à un règlement de compte entre dealers. Après tout, il arrive du Mexique et c'était sa première sortie. Les indices de ce matin, la mort, les brûlures, pourraient concorder avec cela. Il se fait poignarder dans un coin sombre par un plus fou que lui. L'assassin cache le corps quelque part et attend le moment idéal pour le ramener discrètement sur le quai. Voilà, c'est tout. Le commissaire avait suivi le raisonnement de l'inspectrice. Bien entendu, formellement, rien de ce qu'elle avançait n'était impossible. Cela le rassura un peu. Après tout, il angoissait peut-être pour pas grand-chose. Dans tout autre contexte que l'armada, cette affaire aurait été considérée comme banale. Ovid Stepanou planta devant eux son corps maigre mal fichu. Il n'avait pourtant pas la même version des faits et se chargea de leur rappeler.
« Je suis d'accord avec toi, Colette. Cela fera une très bonne version pour calmer les journaux, le cas échéant. Cela étant dit, je ne voudrais pas jouer les troubles faits. »«
Ta gueule, Ovid !» pensa en son fort intérieur le commissaire Paturel. Il savait que dans la bouche de l'inspecteur Stepanou, l'expression « je ne voudrais pas jouer les troubles faits » et sa variante, au risque de paraître rabat-joie, étaient les sésames d'emmerdement en cascade. Pourtant, il ne put s'empêcher de suivre le fil implacable du raisonnement de l'inspecteur. « Mais entre nous, » continua Stepanou, « il faut voir les choses en face et surtout se poser les bonnes questions. » Comment le cadavre a-t-il pu arriver sur les quais, juste en face du côté moque? Y arriver sans que personne ne s'en aperçoive? Quelqu'un qui transporte un cadavre se remarque, même à 6 heures du matin. Et pourquoi prendre le risque de le déposer juste en face du côté moque, alors que Mungarai a été tué ailleurs? Quel peut être le sens d'une telle prise de risque? À mon avis, c'est une des questions clés de cette affaire. Le comment et le pourquoi. Autre question. Selon les légistes, Mungarai est mort quelques minutes après avoir quitté la cantina. Donc, soit la mystérieuse fille blonde est dans le coup, et cela n'a aucun sens de penser que c'est elle qui a envoyé un SMS ce matin, soit elle n'y est pour rien. Mungarai a été tué après. Mais alors, pourquoi envoyer un SMS à 7 heures du matin à quelqu'un qu'elle n'a croisé que quelques minutes? Pourquoi un SMS en espagnol, alors que Mungarai parle en français sur son répondeur? Pourquoi parle-t-il en français sur son répondeur alors qu'il ne fréquente que des matelots espagnols en France? L'inspectrice Cadino affichait un sourire un peu crispé devant l'inventaire de Stepanou.
« C'est bon, Ovid, » coupa le commissaire. « Pour les questions, on fera le point tout à l'heure. Pour l'instant, je préférerais quelques réponses. »
L'inspecteur ne laissa pas le temps de respirer au commissaire.
« J'y venais, Gustave, j'y venais. » On peut au moins faire quelques hypothèses. L'aigle représentait Aquilero, le surnom que s'est donné Mungarai. Quelqu'un a brûlé l'aigle et poignardé Mungarai. Qu'est-ce qu'il reste alors?
Les 4 autres tatouages. Qui sont-ils? Qui se cache derrière la colombe, le tigre, le crocodile, le requin? D'autres marins mexicains? D'autres marins de l'armada? Une confrérie? Une sorte de secte? On peut en tous les cas supposer qu'il y a, quelque part dans Rouen, 4 autres personnes qui ont tatoué sur les épaules les mêmes animaux. Au risque de paraître rabat-joie, si on pousse jusqu'au bout le raisonnement, étant donné la sadique marque de brûlure sur ce corps, on pourrait fort bien imaginer que 3 d'entre elles vont mourir,
et que la quatrième est l'assassin. »
L'inspectrice Cadino haussa les épaules, incrédule. Elle accordait généralement peu d'attention aux prédictions de Stepano.
Le commissaire Paturel aurait bien aimé afficher la même circonspection devant les théories de son inspecteur. Après tout, la théorie d'Ovid Stepanou n'avait pas plus de consistance que celle de Colette Cadino. Cet enquiquineur d'inspecteur roumain avait toujours le don pour imaginer la pire des solutions face à un crime. C'était pour cela que tout le monde le détestait au commissariat. Pour cela, et aussi parce que, presque toujours, c'était lui qui avait raison.